Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter une sous-partie d'une thématique importante sur laquelle on travaille à Thales, qui est l'IA de confiance. Et plus précisément, je vais vous parler de la robustesse contre les attaques par évasion de modèles. Et il y a une propriété importante des évasions de modèles, c'est ce qu'on appelle la transférabilité entre modèles, que je vais expliquer en détail par la suite. Donc ma présentation s'articule comme suit. Je vais faire vraiment des rappels de machine learning de base, des principes vraiment de base, très très simples, en espérant que ce soit compréhensible. Après, je vais passer à l'explication des attaques, principalement évasion de modèles, en pointant aussi d'autres. Je vais expliquer aussi les contraintes et puis quelques exemples concrets. Avant de passer à la transférabilité entre modèles, des attaques, une attaque spéciale qu'on a développée qui s'appelle CIA, que je vais comparer à une autre méthode qui est très utilisée dans la littérature. Donc, une question simple à laquelle le machine learning ou l'apprentissage machine permet de répondre, c'est on a dans un plan des données, deux attributs, X1, X2, et on peut, pour n'importe quel point, poser la question à quelle classe appartient un certain point. Donc, la première réponse, c'est de construire un modèle. Voilà un premier modèle qui est tout à fait adéquat pour les données qu'on a sous les yeux. Un deuxième modèle, et on peut poser comme ça une infinité de modèles possibles. Donc, la première question qui se pose en machine learning, c'est quel modèle utiliser. Souvent, on va vers la simplicité et une fonction linéaire peut tout à fait faire l'affaire. Très simple à apprendre, très simple à déployer, à expliquer, mais pas forcément tout le temps possible et potentiellement aussi vulnérable. Et en pratique, on a des données souvent beaucoup plus compliquées à analyser, à aborder. Si on prend un exemple simple d'une image, classification simple d'image 100 pixels par 100 pixels, trois couleurs, donc trois canaux RGB codifiés sur 8 bits, ben on se retrouve avec 30 000 attributs. Et si on regarde le nombre d'images possibles, c'est 30 000 puissance 256. Je vous laisse calculer. Donc, avec ce genre de problème, on s'oriente nécessairement vers des modèles beaucoup plus compliqués, notamment les réseaux de neurones artificiels. Et pour l'image, ce qu'il y a de plus performant actuellement, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels. Voilà, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, mais voilà, on a des données compliquées, donc des modèles plutôt compliqués. Maintenant, les étapes qui sont, on va dire, importantes dans le machine learning. On a une première étape, donc c'est la collecte d'une base de données, comme ça a été dit dans les différentes présentations. Probablement de la préparation de données, donc du pré-processing. On va nettoyer un petit peu la donnée, la compléter, etc. Après, on va faire un split, donc une division en trois sous-ensembles. Le premier, c'est pour l'entraînement du modèle. Le deuxième, c'est pour sa validation. Et le troisième, c'est pour son test. L'entraînement donc, consiste généralement à régler un peu le modèle, donc à modifier ses paramètres afin de trouver les bons. Puis on va essayer de voir si ça marche bien avec le dataset de validation. Si c'est bon, ben, on passe à l'étape suivante. Sinon, on remodifie encore les paramètres. C'est ce qu'on appelle le tuning ou la modification des hyperparamètres, tout simplement. Une fois que cette étape est validée, on passe au test. Et là, on check un petit peu la capacité de généralisation de notre modèle avant de le déployer, si ça marche bien. Sinon, on remonte vers la roue et on recommence tout. Et on déploie notre modèle et on espère que voilà qu'il marche bien et on met tous les moyens et tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Ça marche super bien, le machine learning, comme vous savez tous, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, comme ça a été dit et redit, c'est aussi fragile, vulnérable et on peut attaquer ces modèles-là. Différents types d'attaques. Les attaques ont été déjà citées, je vais mettre l'accent sur deux, essentiellement. Donc, ce qu'on appelle le data poisoning ou le model poisoning, donc c'est durant la phase d'apprentissage qu'on va essayer d'altérer les données. Et de la sorte, en fait, on va pousser finalement l'obtention d'un modèle biaisé qui est trompé dès le départ, qu'on va pouvoir finalement tromper plus facilement par la suite, une fois qu'il est déployé. Si on revient sur le système Uber, c'est un utilisateur malveillant qui va essayer un petit peu de camoufler son comportement ou bien d'avoir un comportement à la limite, on va dire, du licite, afin d'habituer un petit peu le modèle dans son apprentissage continu. Donc ce type d'attaque, c'est beaucoup plus pour l'apprentissage continu, hein. Un système qui continue à apprendre une fois qu'il est déployé. Et l'utilisateur, finalement, à un moment donné, il va décider de passer à l'attaque. Et son attaque va passer car le système a été finalement habitué à quelque chose de mauvais. Donc il va le considérer comme étant bon. C'est beaucoup plus difficile à mener comme attaque sur d'autres systèmes qui sont déployés une bonne fois pour toutes. L'autre type d'attaque, c'est ce qu'on appelle l'évasion de modèle. Cette fois-ci, donc le modèle est déployé, on n'y a pas accès, pas forcément. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend une donnée, c'est la donnée qu'on envoie au modèle qu'on va modifier. On va la forger, on va la transformer et on va espérer à ce que cette donnée-là soit mal classifiée ou mal interprétée. Si c'est un virus, ben on va espérer qu'il passe entre le filet et faire des dégâts. Donc on va se concentrer beaucoup plus sur ce type d'attaques qui sont beaucoup plus faciles à mener. Je vais donner trois exemples d'évasion de modèle. Le premier concerne un système IA de détection de spam. Qu'est-ce qu'il fait ce système? Il prend un email, il va analyser son contenu, il va compter tout simplement, bêtement, le nombre d'apparences, d'occurrences des différents mots dans le mail. Et avec ça, il va classifier si c'est un mail ou bien un spam ou bien un non-spam. Voilà. Et si on passe un email qui est finalement un spam, dans la moulinette de génération des exemples adversaires ou des attaques, ben, on peut se retrouver par exemple avec le résultat. Il va nous dire si vous voulez que ce spam passe pour un homme, ben, il faut tout simplement augmenter le nombre de, bien diminuer le nombre d'occurrences du mot start dans l'email. Ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer par exemple la lettre A par un 4. Le contenu de l'email sera exactement le même. La classification du spam sera complètement différente et ce spam va passer donc outre la détection. Un deuxième système, donc c'est la classification d'images. Et ça a été dit dans l'une des présentations, une des manières de se défendre, c'est de faire de la défense ensembliste, de mettre plusieurs modèles en parallèle pour se défendre. Et si on regarde cet exemple-là, donc c'est un démonstrateur qu'on a développé chez nous, et en fait, dans lequel on attaque trois modèles issus de chez Google. Ce sont des modèles super puissants qui font de la classification d'images sur 1000 classes possibles. Donc c'est assez balèze. Pour les images, c'est 300 par 300 pixels. Et comme on peut le voir en bas, on a donc pris l'image d'origine du chat, on l'a modifiée légèrement, comme on peut le voir à droite. Et encore, on a augmenté un peu la modification pour que ça soit un peu visible pour l'œil nu. Sinon, on aurait pu tout à fait faire beaucoup moins que ça. Et comme on peut voir, on a trompé les trois modèles à la fois. Et ils classifient tous cette image de droite comme étant une ambulance. Et s'il a classifié comme étant une ambulance, c'est qu'on l'a choisi. C'est ce qu'on appelle des attaques ciblées. On aurait pu tout à fait choisir une autre classe. Je ne sais pas. Un animal ou bien autre chose, n'importe quoi parmi les 1000 classes possibles qu'on avait dans la base. Voilà. Une chose aussi, c'est que le troisième classifieur tout à droite, en fait le quatrième du coup, qui est noté 4, c'est un modèle qui est adversarialement entraîné, donc c'est l'une des défenses qui a été évoquée, en fait c'est de générer des exemples adversaires, de les réinjecter dans la base de données, de refaire un apprentissage. Et comme on peut le voir, ça ne marche pas toujours et on arrive quand même à le tromper. Un troisième exemple, et il a été pointé aussi dans les autres présentations, c'est sur un cas plutôt critique car il concerne la conduite autonome. Et là, on a sur un exemple assez concret, réel, donc un stop. Comment on peut mener en fait ce genre d'attaque? C'est qu'on imprime, on prend l'image du stop, on va la forger. Donc on génère l'exemple adversaire, comme on peut le voir là, le stop qui est tout beau là. arc-en-ciel, on va l'imprimer, on va aller sur un vrai stop, on va le coller dessus et on va l'exposer à un système de classification d'images. Là, ça concerne donc un réseau qui s'appelle la Faster Air CNN. Donc ça, c'est assez puissant. Mais comme on peut le voir, on peut aussi le tromper. Il voit dans ce stop-là un ballon. Donc pour des applications très très critiques, ben, c'est aussi il faut prendre en compte ce problème-là d'évasion de modèle et ne pas négliger ça. Donc bien sûr, pour générer ces attaques-là, c'est pas avec un claquement de doigts. Il y a souvent des contraintes à respecter, sinon ça marche pas. Comme ça a été dit, c'est pas un simple bruit, c'est un peu plus intelligent que ça quand même. Donc il faut prendre en compte ces contraintes-là. La première contrainte, tout simplement, concerne le type de données. Ou bien, par exemple, ici, pour une image, c'est, par exemple, codifié sur un octet. Et donc, sa valeur, c'est entre 0 et 255. Quand on fait l'optimisation et on fait une descente de gradient, par exemple, et on tombe sur une valeur qui est à 300, ben, ça ne marche pas. C'est plus dans l'intervalle de définition, donc on doit clipper, on doit tronquer cette donnée-là, et ce processus de troncature, en fait, peut éliminer l'attaque, donc c'est une opération qui n'est pas désirée, si on veut réussir notre attaque. La deuxième concerne la norme de notre perturbation. En fait, c'est bien de générer une attaque, une perturbation, mais faut-il qu'elle soit assez discrète. Si on regarde l'image de droite, c'est plutôt visible, donc facile à détecter pour l'œil humain. Celle du milieu est plutôt meilleure et plus facile à faire passer. Donc la deuxième contrainte concerne finalement la perturbation à apporter qui doit être limitée. La troisième peut concerner en fait la direction de modification des données. Si on prend un système de détection de malware dans les PDF, par exemple, qui est à base d'IA, ce qu'il va faire, c'est compter les tags qui apparaissent dans la structure du PDF. Et si on veut le forger, générer un exemple adversaire, bah, on ne peut pas supprimer les tags. Sinon, on va le casser, on ne va même pas pouvoir l'ouvrir. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'ajouter des tags. Bien sûr, les ajouter suffisamment en respect aux spécifications PDF pour ne pas le casser. Donc, la contrainte, en fait, c'est seulement ajouter des tags et non diminuer. Donc, c'est une contrainte supplémentaire qu'il faut prendre en compte dans la génération des exemples adversaires. Et si on ne la prend pas en compte, ben, notre attaque sera moins efficace. Il y a des différentes attaques dans la littérature. La première, toute première, c'est une simple descente de gradient qui a pour objectif tout simplement de minimiser la probabilité que la sortie de notre modèle soit égale à la bonne, à la vraie classe. Ou bien si c'est une attaque ciblée, il faut que la probabilité en sortie du modèle soit maximale pour la classe qu'on cible. La deuxième approche, qu'on appelle Carlini-Wagner, en fait, qui est une attaque assez intéressante, non seulement donc elle minimise cette probabilité-là, mais elle prend aussi en compte la norme de la perturbation qu'on apporte, qui est minimisée dans le processus d'optimisation. Mais seulement, il n'y a pas de garantie à ce que cette norme soit inférieure à un certain seuil. Et la troisième, c'est une méthode qu'on a développée au laboratoire qui prend en compte toutes ces contraintes-là, y compris la contrainte de direction. Et je vais montrer par la suite une comparaison de cette méthode avec une autre, notamment en termes de transférabilité. Et pour ce faire, je vais utiliser un exemple concret de cybersécurité. D'abord, je vais rappeler la propriété de transférabilité en fait, d'attaque. Ça a déjà été dit, mais je vais le rappeler quand même. C'est qu'une attaque en fait, qu'on va générer en utilisant un modèle A a des chances de réussir sur un autre modèle B. Si on prend donc, avec un schéma, finalement, on prend un modèle A qui est un proxy. On génère un exemple adversaire, on va espérer que cette donnée-là forgée soit aussi une attaque qui réussisse sur le deuxième modèle. Si on prend une analogie avec avec la synthèse d'un médicament, ben, on essaye de synthétiser le médicament sur un cobaye A, et on va espérer que ce médicament-là marche sur un autre, on va dire, patient ou modèle B. C'est un peu ça le principe. Et en pratique, c'est que effectivement, il y a cette propriété de transfert d'attaque. L'attaque sur le modèle A, quand on connaît et qu'on maîtrise bien, a des chances de réussir sur l'autre modèle B. Et c'est ça qu'on va voir dans le slide suivant. Donc là, un exemple concret sur lequel on a travaillé concerne la détection de malware dans les PDF. Et comme on peut le voir sur le rapport là qui vient de Symantec, voilà, ça, c'est vraiment un problème. Et les PDF sont un vecteur en fait de pour véhiculer des malwares, et il faut vraiment s'intéresser à ce problème-là. Pour l'expérimentation, on a considéré une base de données qu'on appelle Contagio, qui contient 10 000 fichiers PDF malicieux, 10 000 qui sont bénins. Pour le modèle proxy ou cobaye, si vous voulez, on a utilisé un réseau de neurones artificiel. Et pour les modèles qu'on va cibler, 3 modèles, 2 modèles plutôt classiques en machine learning, donc il y a un SVM, donc Support Vector Machine. Le deuxième, c'est une forêt d'arbres de décision. Et le troisième, c'est aussi un réseau de neurones artificiels. Bien sûr, on a répété toutes ces expérimentations-là plusieurs fois pour valider, on va dire, les résultats. Maintenant, le protocole, on va dire, d'évaluation de ce transfert des attaques. On prend le dataset, on le split en 3. Le premier, on va l'utiliser justement pour éviter toute corrélation entre le cobaye ou le proxy et les targets, etc. Donc, on a vraiment séparé les données. Donc, le premier pour l'entraînement des modèles target, donc les 3. Le deuxième pour l'entraînement de notre proxy. Et le troisième, on va l'utiliser pour générer des attaques qu'on va générer en utilisant le proxy, puis qu'on va envoyer sur les modèles target. Et avec ça, on va mesurer le taux de transfert de ces attaques-là entre notre proxy et les modèles cibles. Et on va obtenir des courbes qui ressemblent à ça. Donc, on a la courbe bleue qui concerne en fait le succès des attaques sur notre modèle proxy. Effectivement, suivant la perturbation, si on a une toute petite perturbation qui s'approche de zéro, ben forcément, même sur le local, ce n'est pas forcément gagné qu'on réussisse dans l'attaque. Et bien sûr, plus on augmente la perturbation, plus le taux de réussite des attaques augmente, aussi bien sur le proxy que les targets. Et bien sûr, il y a de fortes chances que le succès sur nos targets soit inférieur à celui de notre proxy. On a fait ça donc en comparant deux méthodes de génération des attaques. Donc la première méthode, c'est FGSM, que j'avais pointé au tout début. Et l'autre méthode, c'est celle qu'on a développée, c'est IA. Et si on regarde bien, c'est que dans tous les modèles qu'on a attaqués, donc le transfert est meilleur en utilisant la méthode CIA. C'est une méthode, on va dire, plutôt agressive par rapport aux autres, vu qu'elle prend en compte toutes les contraintes liées aux données. Si on peut lancer une petite vidéo d'un démonstrateur, en fait, qu'on a fait, oh là-bas, je ne sais pas, la régie, il y a la vidéo qui vient ou pas? Bon, voilà. Donc là, le démonstrateur, donc les 3 modèles qu'on va initialiser, entraîner. Donc là, si on regarde en bas, juste après, on obtient les accuracy des 3 modèles, donc ils sont tous super bons, presque 100%. Là, on va aller chercher des données d'un répertoire PDF et on va les évaluer. Et on va voir que dans les PDF, en fait, réellement, il y a 10 PDF qui sont malveillants et il y en a 5 qui sont bons. Donc, ça, c'est bien classifié par les 3. Maintenant, si on génère des attaques en utilisant la première méthode de FGSM, on voit bien que finalement, tous les fichiers passent pour bons, donc bénins sur le proxy, mais pas les autres, donc il n'y a pas de transfert. Mais maintenant, si on utilise la méthode CIA, ben, on va voir que finalement, les trois modèles qu'on a attaqués voient tous des fichiers bénins, alors qu'il y a 10 sur 15, je rappelle, qui sont malveillants. Voilà donc pour l'expérimentation. Et avec ça, donc, on peut passer à la conclusion. Donc, actuellement, on travaille sur l'extension de ses travaux sur d'autres types de fichiers, pas nécessairement les PDF. Il y a aussi l'amélioration des attaques, car on n'a pas pris en compte toutes les contraintes, même dans la méthode CIA. Et il y a aussi d'autres contraintes, par exemple, les nombres entiers. Les attributs, par exemple pour le PDF, les attributs sont des nombres entiers. Et quand on fait la descente de gradient ou bien notre optimisation, on obtient des nombres réels. Et du coup, on est obligé de faire un arrondi pour obtenir ces nombres entiers. Et même cette opération qui est quelque part une sorte de clipping, en fait, c'est tronquer la donnée, affaiblit aussi les attaques et diminue de leur qualité. Donc si on pouvait prendre en compte ça, ce serait aussi une amélioration dans l'agressivité des attaques. Bien évidemment, notre objectif, c'est pas d'attaquer, c'est de robustifier nos modèles à long terme, car généralement, on déploie des modèles plutôt critiques où souvent des vies humaines sont en jeu. Donc, ça serait bien que ce soit des modèles plutôt robustes et qui savent bien se défendre face à ce genre d'attaque. Et bien sûr aussi, un enjeu, c'est la certification des modèles quand on livre un modèle. Pas seulement montrer des performances qui sont plutôt bonnes en termes de taux de détection, bien d'accuracy ou autre chose, mais il faut que ce soit aussi safe et assez fiable par rapport à toutes ces problématiques-là qu'on a pointées. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre avec plaisir. Merci.
Merci, Goussad. Donc, la parole est à la salle pour les questions. Et une à droite, là, Ossine.
En fait, j'ai une question par rapport. Vous avez mentionné que vous avez effectué des tests en entraînant votre modèle, en utilisant des modèles adversariels, des images que vous avez générées. Donc, j'aimerais savoir quelles sont quelle est l'approche que vous avez utilisée pour générer ces images-là, adversariales, et combien d'images vous avez mis au sein de votre modèle. C'était pour attaquer un modèle de machine learning qui est basé sur des réseaux bayésiens ou bien un autre modèle. Voilà.
Merci. Je suppose que votre question concerne les images que j'avais montrées avant, donc les chars. Donc les modèles, comme j'avais dit, en fait, viennent de chez Google. Donc c'est des modèles qui sont tout à fait téléchargeables en ligne. Donc ça s'appelle Inception V3, Inception V4, je crois, et l'autre, je ne me rappelle plus. En tout cas, il a été adversarially trained, donc pour que ça soit robuste contre les attaques. On n'a pas réentraîné les modèles, donc on les a utilisés tels quels, supposant que voilà, Google les a déployés quelque part et on veut juste les attaquer. Par contre, effectivement, on les a utilisés quelque part en white box. On n'a pas fait de transfert, donc on les a vraiment utilisés dans le processus comme les proxys, en fait. Le proxy que j'ai mentionné, c'est des proxys. Et on les a tous intégrés dans le processus de génération des exemples adversaires. Donc c'est une attaque one shot, elle cible tout le monde à la fois. Donc, et elle peut passer sur tout le monde. Et c'est ça, et il n'y a pas besoin de données autre que l'image qu'on veut modifier. Donc l'image du char qu'on prend, on peut prendre d'autres images et les modifier à souhait pour tromper les modèles. Voilà.
Une question au deuxième rang.
Bonjour et merci.
Ça marche ?
Oui, vous avez rappelé vos objectifs en fin de présentation. Donc, l'objectif est de fournir un outil qui permettrait de durcir la résistance des IA et des deep learning et des machines d'apprentissage. Vous n'avez pas également parlé de certification, mais comment est-ce que vous voyez ce processus de certification autour d'outils de durcissement tels que vous l'avez décrit ?
En fait, je pense que ça peut se faire en deux étapes. La première, c'est de robustifier avec un certain nombre de méthodes qu'on développe. Bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant. C'est que voilà, on essaie de les robustifier comme ça. Et dans un deuxième temps, c'est de faire de la preuve formelle que ces modèles sont bien robustes, donc avec preuve en utilisant par exemple, il y a des travaux dessus, hein, en utilisant par exemple l'interprétation abstraite qui permet donc de donner des preuves formelles sur un certain nombre de propriétés de modèles. C'est appliqué en soft en général et ça peut s'appliquer et c'est appliqué sur les réseaux de neurones en particulier. Donc c'est combiner ces deux approches-là pour obtenir des modèles certifiés. Donc certifiés dans le sens où si vous lui donnez cette donnée-là avec un tel delta, je suis sûr que jamais vous pourrez générer un exemple adversaire. Donc il sera dans une certaine bulle, un certain rayon de l'espace, donc safe, et sa classification ne changera pas avec certitude. On travaille dessus, oui, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus.
Une autre question ? Alors, sur la gauche, Mathieu, enfin bon, si je dis Mathieu, vous n'allez pas savoir.
Bonjour. Dans votre attaque CIA, si on diminue le seuil de perturbation accepté, on doit logiquement avoir une perturbation moins efficace, j'imagine. Est-ce que vous avez essayé de mesurer les différents niveaux de seuil de perturbation à partir desquels on perd en efficacité de façon significative?
De façon significative, je n'ai pas fait le test, mais oui, effectivement, en diminuant la perturbation, forcément, on a moins de chances de réussir les attaques. Et en deçà d'un certain seuil, ça ne passe pas carrément. C'est tout à fait vrai. Donc il y a un seuil minimal qu'il faut dépasser pour pouvoir commencer à faire passer des attaques. Et c'est valable pour tous les modèles, tous les cas.
Dernière question. Alors, il y en a une à droite, à peu près la même hauteur. Notre ami Erwan.
Merci pour votre présentation. Dans votre échantillon de test, une fois muté, dans votre échantillon de test de PDF muté, ici. Excusez-moi.
Je ne vous voyais pas.
Il n'y a pas de problème. Combien sont effectivement toujours malveillants après avoir été transformés par votre système adversaire?
Pour voir ça, il faut regarder les courbes.
Parce qu'en fait, votre PDF, si vous le transformez, à un moment, peut-être que vous cassez le côté malveillant du PDF et donc du coup, l'attaque porte non. Au niveau du réseau neurone, mais pas au niveau système, en fait.
Le côté malveillant, en fait, on ne le touche pas du tout. Il est complètement décorrélé de ce qu'on fait sur, en fait, le contenu du PDF. Je vous donne un exemple très simple. Supposons qu'on a dans le PDF, un PDF, en fait, c'est un fourre-tout. Hein. On peut tout mettre dedans, des vidéos, tous les codes qu'on veut, etc. Supposons qu'on mette dedans un code JavaScript, donc qui est malveillant. Et quand on génère l'exemple adversaire, finalement, on ne touche pas au contenu de ce JavaScript, car tout ce qu'on fait, en fait, c'est compter les tags. C'est une structure un peu en arbre dans le PDF. Tout ce qu'on fait, c'est compter les tags qui apparaissent dans le PDF. Donc, si on voit que il nous faut ajouter un tag JavaScript. Comme j'ai dit, on n'enlève pas. C'est une contrainte qu'il faut respecter. On n'enlève pas de contenu. On ajoute du contenu. Donc, si on doit ajouter un deuxième JavaScript pour que ça passe comme attaque, ben, on va ajouter du contenu JavaScript. Même si il doit être vide, on va l'ajouter pour qu'il soit compté. Donc, le compteur va augmenter. Du coup, notre attaque va passer comme étant un fichier tout à fait bénin. Donc, c'est complètement décorrélé du contenu et de l'exécution du fichier lui-même. Et c'est un avantage comme c'est un inconvénient, justement, de cette IA. Car, voilà, c'est assez léger, car on ne va pas au fond, on ne va pas analyser le comportement du fichier PDF une fois ouvert ou bien durant son ouverture, mais juste sa structure, son contenu en termes de tags, mais voilà, donc d'un autre côté, les attaques passent mieux, quoi.